Ici Ricardo.
Et Émilie, marchande IGA.
On a envie de vous inspirer à bien manger.
À moins de 5 $ la portion.
Suffit de repérer les produits Valeurs Sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
Les Valeurs Sûres, c'est bien pensé, hein?
Bien sûr!
Détails sur IGA.net.
Sophie Durocher.
Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
Sophie Durocher.
Quand on se compare, on se console. Quand on se regarde, on se désole. C'est toujours intéressant de voir comment les autres pays se comportent face à cette troisième vague de la COVID-19. On sait bien sûr qu'en Ontario, c'est la cata. En Inde, c'est la catastrophe. En France, ils ont décidé de faire un déconfinement « quoi qu'il en coûte ». C'est une expression qui est beaucoup utilisée par les gens du gouvernement. On va en parler avec Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est aussi collaborateur ici à Cube Radio à différentes émissions. Christian, bonjour.
Oui, bonjour Sophie.
C'est quoi cette notion du « quoi qu'il en coûte » Ça veut dire on déconfine, peu importe si le nombre de cas dans les hôpitaux augmente. C'est un petit peu une drôle d'attitude, non?
Oui, ben écoutez, vous savez, la France est dans une situation un petit peu particulière en Europe. Ça déconfine beaucoup, je dirais, en Europe, en Espagne, ça déconfine en Italie, au Royaume-Uni, évidemment. Ici, la situation, je vous dirais, s'améliore dans les hôpitaux, en tout cas depuis un certain nombre de jours. On sait que le pic est passé, mais on n'est pas tout à fait au même niveau que les autres pays, sauf que Emmanuel Macron est dans une situation un peu bizarre, paradoxale. Les autres premiers ministres, présidents annoncent des déconfinements là immédiats, et lui, il annonce des déconfinements, vous savez, toujours dans 3 semaines ou dans un mois. Mais évidemment, il faut qu'il occupe l'espace médiatique. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, il y a un petit bout de déconfinement en France, c'est-à-dire qu'on va pouvoir se déplacer à plus de 10 kilomètres. Là, jusqu'à maintenant, ces déplacements-là étaient restreints, mais le couvre-feu est encore en vigueur, les petits commerces sont encore fermés, les terrasses sont pas encore ouvertes. Et tout ça va venir normalement dans 2 semaines, dans 3 semaines, et on peut imaginer que début juin, tout sera terminé. Mais vous voyez, c'est un peu une étrange situation, mm-hmm. je dirais, de communication pour Emmanuel Macron, qui ne peut pas se permettre d'annoncer de bonnes nouvelles comme on le fait dans les autres pays européens, mais quand même est obligé d'annoncer des choses, donc les annonces toujours à l'avance, sans évidemment savoir quelle sera la situation sanitaire dans 3 semaines.
Ça me rappelle un petit peu quelque chose que vous avez pas connu sur place, parce que vous étiez pas correspondant du Devoir à ce moment-là, mais dans les années 70, fin peut-être début 80, il y avait une campagne publicitaire, c'était une fille qui avait un haut de maillot et un bas de maillot, elle disait la semaine prochaine j'enlève le haut, ou la semaine prochaine j'enlève le bas, je me souviens plus, bref, on a l'impression que le gouvernement fait un petit peu un striptease.
Oui, ça avait commencé par le haut, après ça c'était le bas, c'était une des grandes campagnes publicitaires, qui finalement j'étais au Québec à ce moment-là et puis on en avait entendu parler. Mais effectivement, voilà, Emmanuel Macron est un peu dans la situation de cette jeune fille qui nous annonçait qu'elle enlèverait le haut la semaine prochaine. Mais comme je vous dis, c'est un peu une situation étrange parce qu'effectivement la France est un peu en décalage en ce moment avec le reste de l'Europe.
D'accord. Et on a très hâte, évidemment, que ça se confirme pour l'accès à la France pour les gens qui viendraient de l'extérieur, donc en particulier, évidemment, du Québec.
Et c'est pas fait encore,
mais les signes avant-coureurs sont quand même assez positifs. Et évidemment, va falloir qu'on puisse prouver qu'on a été vacciné. Puis en plus, en fin de semaine, la ministre de la Santé canadienne a ouvert la porte en disant absolument que c'était vers ça qu'on s'en allait, un passeport sanitaire canadien. Donc, on va peut-être pouvoir bientôt aller vous rendre visite, Christian.
Bon, il y a vous êtes en avance en termes de vaccination au Canada sur la France. Donc,
oui, ça va bien. On est très content de ça. Le 21 avril, il y a des généraux à la retraite qui ont publié une lettre ouverte, une tribune. Ça parlait de quoi, Christian?
Oui, écoutez, vous savez qu'en France, l'armée a un surnom, ça s'appelle la Grande Muette, hein, parce que normalement l'armée. Oui, on l'appelle la Grande Muette parce que normalement l'armée, c'est quelqu'un qu'on n'entend pas, hein, on se. Mm-hmm. Et là, tout à coup, effectivement, le 21 avril dernier, une tribune a été publiée par des généraux, une vingtaine de généraux à la retraite, qui ont publié une tribune qui a fait énormément de bruit. Dans cette tribune, ils disaient « L'heure est grave, la France est en péril, plusieurs dangers mortels menacent la France. » Donc, selon eux, ils en énuméraient trois en particulier. Ils parlaient notamment du développement de l'antiracisme qui se développait en France, mais qui créait, au contraire, plutôt que d'unir la population, créait une haine entre les communautés. Il parlait du délitement aussi du pays avec l'islamisme et les quartiers souvent qu'on ne contrôle plus. Et ils évoquaient aussi les gilets jaunes et la difficile situation dans laquelle les policiers s'étaient retrouvés, et ainsi que les gestes de violence qui s'étaient produits à ce moment-là. Vous voyez, imaginez une tribune de généraux, mais évidemment là, de généraux à la retraite. Certains ont évidemment immédiatement porté les baguettes en l'air. Là, on imagine à gauche, évidemment. Jean-Luc Mélenchon qui a immédiatement parler de factieux, de militaires. On voit rouge dès qu'on voit des militaires. On s'imagine avec le coup d'État de la Grèce, même si ça n'a pas grand-chose à voir. La ministre de la Défense et de l'Industrie, elle, a parlé, c'est assez amusant, c'est assez ironique et sympathique, d'un carteron de généraux en charentaise.
Bon, il faut expliquer c'est quoi les charentaises. Je vous laisse le plaisir, parce que moi je sais ce que c'est, parce que j'ai vécu en France, puis c'est là que je suis née.
Les charentaises, ce sont des pantoufles, tout simplement.
Non, mais des grosses pantoufles LED, quétaines, ringardes.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, et évidemment, cette tribune-là tombait mal parce que tombait un 21 avril. Or, le 21 avril 1961, c'est Charles de Gaulle qui avait prononcé une phrase à peu près semblable. C'était une allusion à peu près directe à ce que de Gaulle avait dit. Il avait parlé d'un carteron de généraux à la retraite à son époque parce que il avait fait face à ce moment-là à une véritable tentative de putsch en Algérie où des militaires, un certain nombre de militaires avaient pris le pouvoir à Alger, contrôler la radio, contrôler tous les lieux de pouvoir. Et donc, ça avait été à ce moment-là la réponse de Charles de Gaulle. Mais on imagine bien que nos 20 généraux à la retraite, parmi lesquels il y a des gens très honorables d'ailleurs, des gens qui ont été médaillés, des gens qui ont combattu en ex-Yougoslavie par exemple ou au Mali, on imagine bien qu'on n'est pas en France au bord.
Mais non, un coup d'État, non.
Du coup d'État, pas du tout, même si certains se sont mis à s'imaginer. Vous savez, la politique aujourd'hui est très inflammable. Les esprits sont extrêmement inflammables. Il y a une attaque quelque part, on parle immédiatement d'insurrection. Et là, on a un manifeste dont une des phrases était un peu ambiguë, c'est-à-dire laisser entendre que si la situation empirait, peut-être que les militaires actifs seraient obligés d'intervenir, mais... Bon, tout le monde a compris que, effectivement, quand on est dans une situation de violence extrême, il se peut que l'État puisse appeler l'armée. D'ailleurs, l'État a déjà appelé l'armée en renfort contre le terrorisme. C'est arrivé, ça. C'est arrivé, et ça a duré pendant plusieurs années. Ça vient à peine, d'ailleurs, de se terminer.
Ben, on se rappelle.
Je dirais le plus.
Oui. On se rappelle, Christian, quand il y a eu justement toute une vague d'attentats. Je me rappelle, on arrivait à l'aéroport à Charles de Gaulle. Et il y avait des militaires qui faisaient la et qui se promenaient avec leur gros fusil là. Et donc et même sur les Champs-Élysées ou à plein d'endroits à Paris, il y avait en effet des militaires parce que la situation était extrêmement explosive et dangereuse et on était content qu'il y ait des militaires justement. Mais sur le fond là, sur ce constat que font ces généraux à la retraite quand ils parlent de l'antiracisme, la haine entre les communautés, la montée de l'islamisme, sur le fond, qu'est-ce qu'ils ont à dire, les gens qui sont pas d'accord avec cette tribune-là? Est-ce qu'ils contestent le fait qu'il y a des problèmes dans certains quartiers?
Ben le problème, c'est qu'ils n'ont rien à dire. C'est ça.
Bon,
c'est ça,
voilà.
Qui est fascinant, je vous dirais, dans la réaction qu'on a entendue à part Marine Le Pen, évidemment, qui a soutenu l'intervention des militaires, quelques personnalités de droite qui l'ont fait aussi, mais le gouvernement lui-même n'a à peu près rien à dire, sinon que de ridiculiser un peu l'intervention, sinon que de dire les militaires n'ont pas à faire ça. Or, une semaine après la publication de la Tribune, un sondage est sorti montrant que 58% des Français étaient d'accord avec la Tribune. Imaginez, presque 60% des
énorme.
Français, c'est absolument énorme. Et non seulement ça, mais quand les militaires parlent du développement puis de la montée de la violence en France, il y a 84% des Français qui sont d'accord. Quand on parle de délitement du pays, il y a 73% des Français. Et quand on parle de l'antiracisme qui crée la division entre les communautés, il y a 74% des Français qui sont d'accord. Donc, vous voyez qu'on est dans une situation assez étrange où cette tribune est publiée. Les Français sont grosso modo d'accord, je vous dirais, les deux tiers des Français sont d'accord avec ça. Et le gouvernement n'a comme message que de dire les militaires n'ont pas à faire ça, c'est un scandale, c'est scandaleux qu'on publie une telle tribune, sans jamais dire oui, il y a un malaise, oui, il y a des problèmes, sans jamais admettre qu'en fond, que le fond de cette affaire-là, oui, les Français reconnaissent qu'il y a ce type de problème-là en France. Peut-être que les militaires n'ont pas véritablement de solution à proposer, peut-être que celles du gouvernement sont les bonnes, mais c'est cette espèce de déni, je vous dirais, qui étonne la population et qui marque un fossé, en tout cas, entre le gouvernement, entre les
une déconnexion.
Et la population en général. Oui, c'est ça. Je pense qu'on peut parler d'une vraie déconnexion. On peut imaginer qu'on pense à De Gaulle, mais on peut imaginer que des chefs d'État de ce type-là auraient au moins été capables de reconnaître, voyez-vous, soit leur tort, soit quelque chose, soit un malaise dans la société.
Mais au moins d'en débattre.
Qu'Emmanuel Macron ne semble pas capable, malheureusement, pas capable de faire. Donc, je vous dirais que ça n'aide pas la situation, d'autant que la situation en France est quand même relativement explosive. Hein. La semaine dernière, Tourcoing a connu 4 nuits d'émeute.
Oui, puis il y a eu l'assassinat quand même. Oui, de cette policière, ou en fait, cette dame qui travaillait dans une gendarmerie qui a été égorgée au cri de Allahu Akbar. Donc, quand il y a des anciens militaires qui disent, des généraux à la retraite qui disent qu'il y a une montée de l'islamisme, il faudrait peut-être les écouter aussi, là.
Oui, au lieu d'hurler au coup d'État, personne n'imagine que demain matin, des militaires vont essayer de tenter un coup d'État en France. C'est proprement ridicule. L'armée de toute façon, ces militaires sont à la retraite et l'armée n'est pas dans cette situation-là aujourd'hui en France. Au contraire, elle obéit au doigt et à l'œil au gouvernement. Donc, au lieu de mettre de l'avant ce genre d'argument un peu factice, il serait peut-être temps de s'asseoir et d'examiner ces problèmes-là et d'en débattre avec la population.
Ouais, absolument. Écoutez, Christian, c'est une tradition en France, le 1er mai, il y a deux choses. Il y a le muguet, on commence la vente du muguet le 1er mai.
Oui. Et j'ai mes brins en bas dans le...
Ah, génial, vous êtes vraiment chanceux, parce que nous, ici, c'est vraiment pas le temps, là. il fait froid, il fait frisquet, non, pas vraiment, mais peu importe, donc il y a cette tradition-là, et il y a la tradition de une manifestation très familiale pour y avoir assisté de loin à quelques reprises. C'est un petit peu la fête, le 1er mai, où les gens descendent dans la rue, mais là, ça a viré, pas à l'émeute, mais ça a mal viré ce 1er mai 2021.
Oui, ben écoutez, je pense clairement qu'on est en train d'assister à la disparition de ce qu'a été la grande manifestation du 1er mai. Il va probablement en rester quelque chose, mais on se souvient que puis à Montréal, je pense, c'était comme ça aussi, même à l'époque. On se souvient dans les années 70, 80, 90, même jusqu'à 2000, les manifestations du 1er mai, c'était des grandes fêtes. Hein? On allait là en famille, il n'y avait pas besoin d'être un militant pour aller manifester le 1er mai. Ça ramassait d'ailleurs des centaines de milliers de personnes. Samedi, vous savez, à Paris, il y avait entre 17 et 25 000 personnes. Pour Montréal, ça serait un bon chiffre, mais pour Paris, c'est ridicule. C'est absolument ridicule, et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, ne vont dans ces manifestations-là qu'à peu près que les militants. C'est-à-dire que les milieux populaires, les ouvriers, les employés, les caissières de restaurants, de magasins ne vont plus dans ces manifestations-là pour toutes sortes de raisons, parce que d'abord, ces manifestations-là sont de plus en plus violentes et la dernière, enfin, ça fait au moins 3 ou 4 1er mai en France que la manifestation se déroule très mal. Donc, évidemment, on n'amène pas ces enfants-là et on va pas se pointer là. Et cette année, imaginez, on est allé les militants Black Bloc là, qui arrivent cagoulés, armés dans ces manifestations-là, déguisés pour pas qu'on les reconnaisse, se sont attaqués directement à des militants de la CGT. Vous savez que la CGT,
un des syndicats,
c'est un peu comme la CSN chez nous, hein. Mm-hmm. C'est le grand syndicat de gauche. C'est lui qui a inventé le 1er mai. C'est la CGT qui a inventé le 1er mai.
La fête des travailleurs, ouais.
Privé, ça, le 1er mai. Et donc, on a attaqué, imaginez, le service d'ordre de la CGT. 21,
c'est assez symbolique.
4 blessés graves. Donc, on voit bien qu'une nouvelle gauche, quelque part, surgit, et que la vieille gauche, une vieille gauche, quelque part, disparaît. Et le 1er mai, je pense, est en train, tranquillement, de disparaître. Ce n'est plus, c'est de moins en moins aujourd'hui un événement important dans la société. Je vous disais pour toutes sortes de raisons, parce que c'est violent, mais aussi parce que les milieux populaires aujourd'hui ne vivent plus en ville, hein, ne vivent plus, enfin, en France. Pour avoir des milieux populaires, des milieux syndiqués, par exemple, il faut aller à 50 kilomètres à peu près, parce que on a une ville qui est très embourgeoisée, on a des banlieues qui sont des banlieues immigrantes. Les immigrants participent pas en général à ces manifestations-là. Et donc, c'est au-delà de ça qu'on a des populations qui pourraient venir manifester à Paris, mais on fait pas 60 kilomètres pour venir, venir nécessairement manifester à Paris. Donc, on voit disparaître là, quelque part. On pouvait être pour ou être contre, mais on voit quand même disparaître là une vieille tradition ouvrière qui concernait les milieux populaires, mais qui aujourd'hui est en train de disparaître littéralement, je crois.
Bon, ben c'est très intéressant puis très déprimant de voir cette évolution-là, mais c'est toujours intéressant d'en parler avec vous, Christian. Merci beaucoup, bon muguet, et bon déconfinement progressif, donc on a très hâte de savoir...
Je vous en donnerai des nouvelles progressives, ça va durer, je pense, un bon mois.
Oui, le striptease progressif d'Emmanuel Macron. La semaine prochaine, j'enlève une mesure de confinement.
Je ne dirais pas que c'était pour autant sexy, mais bon...
Non, pas vraiment.
Non.
Voilà. C'était Brigitte Macron peut-être, mais Emmanuel, ça l'est moins. Bon, on va arrêter les blagues, blagues douteuses. Oui, exactement. Merci beaucoup, Christian.
Merci, au revoir.
Christian Rioux, qui est correspondant du Devoir à Paris et qui est notre petit correspondant à nous aussi. On l'aime beaucoup, on l'adore. Donc, à Cube ici, il est dans plusieurs émissions.